Brume 90.7, nouvel entretien Confluence Cinéma, comme chaque mercredi, avec messieurs Raphaël Lorenzo et Hakim Fdaouche. Bonsoir à vous, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, aujourd'hui, dans l'émission Confluence Cinéma, nous allons parler de pas mal de choses et on va attaquer tout de suite avec un film qui fait un petit peu le buzz en ce moment, que Raphaël a vu à Cannes, c'est Bird People, et Hakim enchaînera avec un film peut-être un peu moins intéressant, Sous la jupe des filles.
Quoi que c'est intéressant, Sous la jupe des filles.
Ouais, non, Sous la jupe des filles, c'est intéressant, mais le film, je sais pas. J'ai, comme ça, vu de nez, le regard de Monsieur Fdaouche ne me dit rien qui vaille.
Ouais.
Il faut l'emmener sa copine, Hakim.
Bah justement, je l'ai vu avec elle. Ah, j'expliquerai pourquoi.
Je te
après.
Connais.
Bon. Alors, monsieur Lorenzo, attaquez un petit peu Bird People. Reparlez-nous de ce film dont on parle un petit peu de partout en ce moment.
Eh ben, à juste titre, parce que c'est un super film et que Pascal Ferrand est une cinéaste assez discrète, voire même secrète. Elle a tourné très peu de films en 30 ans, on va dire 3 à 4 films en 3 décennies. On l'avait surtout bien maîtrisé, bien vu sur les radars avec son dernier film, Lady Chatterley, qui était reparti avec une ribambelle de César, un superbe film incarné à l'écran par Marina Hans. Et là, elle nous revient avec une fable, on pourrait dire un très beau film, Bird People, un film qui met en scène plusieurs acteurs du monde entier. Donc on retrouve surtout Anaïs de Moustier dans le rôle principal, il y a Roche Dizem, il y a des acteurs aussi coréens, des acteurs américains un peu moins connus. Et le film va suivre comme ça plusieurs parcours. Dans la première partie, on va suivre le destin, la chronique d'un Américain à Paris qui est en transit. Il attend à l'aéroport, il attend son avion pour, je crois, les Émirats arabes. Et tout d'un coup, sur un coup de tête, en pleine nuit, il va décider de tout quitter, de plus rien faire de sa vie, de vagabonder, de découvrir le monde. Il va tout abandonner, sa femme, sa famille, etc. Dans la première partie. Et dans la deuxième partie, on va suivre le destin de Anaïs de Moustier qui va, difficile de spoiler, hein, qui va vivre voilà, une expérience assez particulière, assez fantasmagorique, assez magique. Et le film, moi, je l'ai trouvé déjà formellement assez maîtrisé, ce qui m'a assez étonné de la part de Ferrand. J'ai beaucoup aimé Lady Chatterley, mais là je trouve qu'elle a une maîtrise visuelle assez forte, beaucoup plus que dans son précédent film. Il y a des plans qui sont absolument magnifiques, on survole tout Paris avec un oiseau, on voit en fait la vue subjective d'un oiseau à travers Paris sur Major Tom de David Bowie.
Alors elle, Pascal Ferrand, elle prend le temps pour les films, c'est ça, parce qu'elle n'a pas une filmographie très très...
Alors j'ai une explication concernant la longue durée qu'il existe entre Lady Chatterley et Bird People, hein. Apparemment j'ai lu ça dans l'interview qu'elle a accordé à Positif ce mois-ci, grosso modo elle a mis 2 ans avant de se remettre de la grosse épreuve qu'était Lady Chatterley, qui au passage a reçu pas mal de récompenses, notamment au César. Alors, je sais plus, au départ, je sais qu'il y a une version longue qui existe, qui est passée sur Arte. Hein,
c'est comme ça que je l'ai vu, moi.
Et en fait, elle a mis 2 ans avant de s'en remettre. Et au bout de 2 ans, elle a commencé à travailler sur ce film qui, finalement, n'a pas coûté si cher. Hein. C'est un film d'auteur qui a coûté pas plus de 6 millions d'euros. Mais tout ce qui a dû se faire en post-production, voire même en pré-production, à savoir les repérages, ces hôtels. Je parle sans avoir vu le film, mais je sais qu'il y a pas mal de lieux. Ça se passe pas que dans un aéroport, ça se passe également dans les hôtels, tout ça.
Proche de l'aéroport.
Ouais, il y a eu beaucoup de recherches en amont et beaucoup de travaux effectués en post-production et qui ont pris beaucoup de temps. Le tournage en lui-même n'a pas pris énormément de temps, mais la post-production, si, c'est ce qui explique.
Il y a eu beaucoup d'effets spéciaux surtout.
Oui, voilà, des effets spéciaux. Mais elle disait dans l'entretien que finalement c'est le public qui le sauve et qu'elle a toujours eu un public pour ses films. Même pour des œuvres qui, à première vue, ont l'air très, très renfermées, très destinées à un public très, très, comment on dit, très
pointu.
Et en fait, pas du tout. Et donc là, les derniers ragots, les derniers potins, les derniers retours prouvent que le film fonctionne bien. Il y a eu un bon bouche à oreille. J'aurais bien voulu le voir pour l'émission. Malheureusement, mon patron a fait que je n'ai pas pu, mais c'est un film que j'irai voir.
Non,
mais
alors, c'est... Raphaël, du coup, toi, c'est un film que tu as vraiment aimé. Ouais.
J'ai même adoré. Mais... Voilà, pour sa maîtrise formelle et sa poésie surtout, parce qu'on va suivre en fait un petit oiseau pendant toute la seconde partie, sans trop dévoiler de l'intrigue, parce que j'ai pas envie de dévoiler l'intrigue en fait, j'ai vraiment...
Bah, c'est vrai que la bande-annonce, elle est bizarre, à première vue, elle m'a pas donné envie de me déplacer pour voir le film, et c'est justement en écoutant le bouche à oreille, en lisant les différentes critiques, ce que je fais généralement très peu, et en lisant son interview, et plus ton avis que tu nous as donné quand tu étais à Cannes, ça m'a donné envie. Est-ce que c'est vrai que toi qui as vu la bande-annonce, c'est bien vrai ce que je dis, qu'il y a finalement aucun rapport entre...
Il y a deux films en un, et je pense que la bande-annonce est essentiellement sur la première partie du film pour laisser justement la découverte de la seconde. D'accord. Qui est vraiment très poétique. Je te dis, on suit le parcours d'un petit oiseau et donc du coup on ressent le temps imparti au film, quoi. Les effets spéciaux sont assez faramineux. L'oiseau, on m'a expliqué après qu'il a été fait du début à la fin en post-production. Moi, je crois que c'était un vrai oiseau qu'ils ont réussi à domestiquer, etc., avec des dresseurs et pas du tout, en fait. Et c'est vraiment très beau. Voilà, les plans sur Paris, sur David Bowie, ça marche, mais puissance 1000, quoi. Et c'est une fable moderne à travers le monde. Non, c'est très touchant, c'est très poétique, c'est très bien fait, quoi.
Et Pascal Ferrand est ici de la FEMIS. À l'époque, ça s'appelait pas encore la FEMIS, c'était l'IDEC. Et elle est très proche d'Arnaud Desplechin. Et je crois qu'elle était son assistante sur la Sentinelle, je crois. Elle est très proche d'Arnaud Desplechin.
Ben en tout cas, on ressent un vrai talent de metteur en scène. Et le seul bémol que je mettrais sur le film, c'est peut-être sa durée. Si je m'abuse, il dure 2h15, 2h20. Et la première partie prend un peu de temps à s'installer. On comprend très vite que l'Américain va effectivement abandonner sa vie, qu'il va forcément rencontrer tôt ou tard Anaïs de Moustier et que les deux vont connaître un chemin ensemble. Et ça met un peu de temps. Voilà. Bon, c'est le seul bémol que je ferai au film. Mais il faut le soutenir, car en tout cas, Pascal Ferrand a fait plusieurs appels pour que le public se déplace pour le film. Apparemment, ils ont eu beaucoup de problèmes pour rassembler les fonds à la base le projet. Ouais. Et c'est un film qu'il faut soutenir et aller voir. Je ne sais pas trop où il est diffusé actuellement.
Il est comédien.
C'est vrai que la critique est assez dithyrambique. Quoi. C'est assez
moi, je trouve ça formidable.
Hein, parce que moi, j'en entends parler de partout, par tout le monde en ce moment, depuis 2 semaines. C'est assez dingue. Quoi.
C'est mérité, c'est entièrement mérité.
Alors, de votre côté, Hakim, vous êtes allé voir un film...
Tu me vous vois.
Sous la jupe
des
filles.
Je prends 20 ans, soudain. Oui. Alors, je
tiens
à préciser...
C'est le titre qui t'a passionné.
Non. Il y a une toute autre raison que je vais dévoiler en public. C'est que ma petite amie est une grande fan de Marc Lavoine. Donc, pour te dire, juste après ce film-là, on s'est fait Le Cœur des Hommes 3. Et en fait, oui, Marc Lavoine, le Marco pour les intimes, devait jouer dans le film. Et malheureusement, il fait une petite courte apparition de 2 minutes. Voilà la raison pour laquelle on s'est débattu, du moins que j'ai accompagné ma chère Dulcinée, que je salue au passage si elle écoute l'émission, ce qui m'étonne. Mais bon, on ne sait jamais. Et donc, Sous la jupe des filles, alors, c'est un film choral, tout ce que j'aime dans le cinéma.
Déjà, qui me parle mal.
C'est un portrait de 11 femmes diverses et variées, venant de divers milieux sociaux, avec des métiers différents. Donc, on a aussi bien la femme d'affaires, une maîtresse, une lesbienne, des personnes diverses et variées qui vont finalement se retrouver au final en point commun, à savoir se révéler, se surpasser par rapport à ce qu'elles ont l'habitude d'être. Bon, on retrouve les actrices du moment avec des générations, à des générations diverses. On a Isabelle Adjani, on a Vanessa Paradis, on a Géraldine Nakache, qui est vraiment l'actrice du moment qu'on voit un peu de partout. Et comment dire, c'est un film qui, il y a Laetitia Casta également, qui dans le film campe une avocate qui a des problèmes gastriques. Alors ça donne des scènes assez drôles, notamment une séquence où elle mange des huîtres à un restaurant.
Mais ça, voilà. Je pense, parce que Audrey Dana a déclaré qu'elle était fan de comédie américaine, qu'elle a pompé ça, ce passage.
Qui est la réalisatrice du film et qui joue également un rôle dans le film, du moins une des 11 femmes.
Je pense qu'elle a pompé ce passage sur Mes meilleurs amis de Paul Feig, parce qu'il y a quasiment le même gag... dans le film, un essayage de robe gastrique, je ne vais pas en dévoiler plus. De mon avis, elle le dit de partout qu'elle s'inspirait de ça. Donc.
Mais c'est un film qui n'est pas irregardable, qui n'est pas insupportable à regarder, même si, il est vrai, le film fait 2 heures et c'est un petit peu long. C'est d'ailleurs ce que tout le monde reproche au film. Mais comme tout film choral qui se respecte, effectivement, on a des histoires diverses et variées qui, au final, ont un point en commun. Et fort heureusement, sinon, il n'y aurait aucun intérêt. Et il y a des histoires qui sont drôles, d'autres moins. Alors, tout le passage avec Laetitia Casta est assez drôle. Celui avec Géraldine Nakache qui va finalement tomber amoureuse de Alice Taglioni, qui joue le rôle d'une lesbienne qui vient au tout début faire du babysitting chez elle. C'est assez mignon également. En revanche, le segment avec Isabelle Adjani qui ne s'est pas du tout remis de son opération faciale. Hein. C'est assez dégueu à voir, comme d'habitude.
Il nous fait un film d'horreur.
À chaque fois que les femmes vont sur le billard pour une opération chirurgicale, voilà, tu as toujours 3 chances sur 4 que ça ne fonctionne pas. Et là, c'est encore le cas. Il y a Vanessa Paradis également qui se remet progressivement de sa rupture avec Johnny Depp, qui ces derniers temps avait opté pour un look un peu mémère, grand-mère avec des cheveux frisés.
Le tortereau, ouais.
Là, ça va un petit peu mieux, mais son segment n'est pas bon, pas tellement drôle. Hein. Elle interprète une directrice d'une grande entreprise de sondage hein, qui marche bien. Et puis voilà, non, c'est un film inégal, un peu longué, inégal. Mais m'indiquait ma petite amie qui, tout comme moi, pense que le film est ni figue ni raisin, ça fait quand même du bien de voir un film fait par une femme sur les problèmes sexuels des femmes, du point de vue des femmes. Parce qu'en
fait
règle
pour générale, les femmes et vu par Hakim. Ouais.
C'est beau ce que tu viens de dire. Non, mais il y avait beaucoup de coupes hier.
Oui, c'est le film.
Il faisait très, très beau, il faisait très chaud. Et donc, dans la salle de la ciné-conférence...
Ce ne serait pas un peu infidèle version féminine?
Infidèle, c'est...
Tu sais, le film avec Dujardin et Lelouch, avec plein de segments différents.
Ah oui, oui, j'avais entendu de ce film, bon, je ne l'ai pas vu, mais peut-être.
Il est pas mal.
Peut-être.
J'ai pensé à ça sur le papier, quoi.
Bah voilà, c'est... Donc voilà, ce que je dis, c'est pas inintéressant comme projet, savoir raconter la vie sexuelle du point de vue des femmes, pour les femmes, et montrer comme quoi elles peuvent des fois se rebeller, et voilà. Donc un film très féministe, mais c'est un petit peu longué, et voilà, c'est inégal, tous les segments ne sont pas du même niveau. Il y a quelques segments assez hilarants, mais d'autres, on peut faire vraiment l'impasse.
Eh ben on écoute un premier morceau de musique et on se retrouve ensuite pour parler notamment d'un livre, Raphaël, et puis d'un autre film que tu es allé voir, Hakim. Rhum 90.7, deuxième partie de cet entretien Confluence Cinéma. Et Hakim, tu vas nous parler d'un second film que tu es allé voir cette semaine.
Oui, Edge of Tomorrow, le nouveau film avec Tom Cruise qui, mine de rien, plus les années avancent, plus il s'affine et plus il fait des films physiques. Bon, c'est pas son premier film en tant que surhomme, hein, on va dire que depuis les années 90, depuis qu'il a endossé la casquette de producteur, il a enchaîné les grands films à grand spectacle, donc la série des Missions Impossibles.
Jack Reacher,
donc qui était son avant-dernier film, c'était Oblivion. Et Jack Reacher qui était vachement bien, moi j'avais beaucoup aimé.
Et ça va être une saga, puisqu'il y a le 2 qui est en préparation.
Ah bon, ouais. Et donc Oblivion, là, et donc du coup, c'est d'affilée son deuxième film dit de science-fiction, alors j'ai oublié de noter le nom du metteur en scène, hein, je sais qu'il avait été...
C'est Doug Liman.
Qui avait été un des artisans des effets spéciaux de Tron, l'héritage.
Oui, mais surtout le metteur en scène des Jason Bourne, de Mr. and Mrs. Smith. Ah oui.
Ah bon ?
Oui, c'est Doug Liman, ouais.
T'es sûr que c'était lui
qui
avait
réalisé
le film ? Bon, d'accord.
Et Jumper bien. Aussi, une bouse infâme avec Hayden Christensen.
D'accord, ok. Bon, alors, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça dans sa filmographie, bref. Et c'est également inspiré d'un roman japonais écrit par un certain Hiroshi Shakurosake. Et l'histoire, eh ben, bien sûr, quand on parle des problèmes de l'espace-temps, de retournement de vie, etc., on pense forcément à une histoire sans fin.
Un jour sans fin.
Un jour sans fin, ah. Décidément. Et voilà, ce film, on peut clairement dire que c'est un beau mix entre « Il faut sauver le soldat Ryan »,« Starship Trooper » et « Un jour sans fin ». Alors, de quoi parle le film ? On est dans un futur proche, une nouvelle fois, et bien entendu, la Terre est attaquée par une forme de vie extraterrestre particulièrement hostile à la race humaine. Et dans le film, ces monstres ont pour surnom les mimiques. Et paradoxalement, elles ressemblent beaucoup aux sentinelles qu'il y avait dans Matrix. Oh. Et voilà, bon, les références s'arrêtent à ce moment-là. Et là, c'est peut-être le petit bémol du film, et là, c'est plus du point de vue du scénario. On a ce personnage, Tom Cruise, qui est en fait le porte-parole de l'armée américaine, qui vient sur le sol britannique pour, grosso modo, inciter les humains à rejoindre l'armée pour combattre ces mimiques, hein, en vue d'une prochaine attaque sur les plages normandes de France. Donc voilà, on a le droit à notre D-Day dans le film.
C'est drôle, j'ai revu Indépendance Day hier, bah, c'est un peu comme ça aussi.
Oui, non, mais sauf que là, il revisite la séquence du débarquement de la Ryan, mais voilà, avec des...
En mode extraterrestre, quoi.
Voilà, en mode Starship Trooper. Et sauf que... Donc, Tom Cruise, qui a pour nom Cage, donc là, ça fait encore... Il y a de quoi te faire plaisir, hein, Fel, hein, va se retrouver, on ne sait pas comment, pourquoi, embrigadé dans cette...
boucle temporelle.
Dans l'armée. On lui dit, non, très bien, on vous met dans l'armée. Si vous refusez, on vous arrête. Ce qui va être le cas, parce qu'il va... Étant donné que c'est dans le film, c'est un personnage un peu âgé, il doit avoir la cinquantaine, il n'est pas du tout formé pour combattre sur le terrain, sur le front, il va refuser, donc du coup, il va être obligé. Et du jour au lendemain, il va se retrouver dans une armure, embarqué sur le front sans aucun entraînement, et à ce moment-là il meurt de façon très rapide, un peu comme quand tu commences un nouveau jeu que tu ne sais pas du tout jouer à des jeux vidéo, ce qui est mon cas, tu meurs au bout de 10 secondes, et bien c'est le cas, sauf que là il va revivre l'action répétitivement, etc., à chaque fois qu'il se fait tuer. Il va comprendre très rapidement qu'une certaine fille, hein, qu'il va croiser, hein, donc, qui est interprétée par Emily Blunt,
ouais.
Blunt, que je trouve assez froide, hein, qui est peut-être aussi également le deuxième point faible de ce film, hein, je la trouve assez froide.
Elle est souvent mal employée.
Mal employée, peut-être mal dirigée. Il va comprendre que seule elle peut comprendre dans quelle situation il est, et elle va l'aider à retrouver la source principale de ce mal, de ces mimiques, qui se trouve en réalité dans le Louvre. Dans le Louvre à Paris. Et plus à chaque fois il va partir à la recherche de cette source, à chaque fois qu'il va être amené à se tuer, il va apprendre à connaître le terrain, à se former, à appréhender tous les événements, un peu comme quand tu joues aux jeux vidéo, où à chaque fois tu recommences ta mission et où tu t'habitues à l'univers qui au départ t'était hostile. Et voilà. Et là, je trouve que pour ce coup, on a véritablement un film qui s'inspire vraiment de la grammaire du jeu vidéo. On l'a souvent dit, notamment pour les REC, pour tous ces films qui utilisaient un point de vue à la première personne. On disait, voilà, c'est un film qui s'inspire du langage du jeu vidéo. Là, on est vraiment dans ce cas-là. À chaque fois, on répète la même mission, dans la même map, dans le même décor. Et puis voilà. Le seul bémol que je mettrais au film, qui est spectaculaire, qui est bien réalisé, il y a vraiment il y a un montage assez clair, hein, bien que par moments, il y a des séquences assez speed. Hein, la production design et les monstres sont plutôt bien menés. Vraiment, on a affaire à un film de science-fiction qui a une esthétique et un univers assez nouveau, je trouve. Le seul bémol, et ça, je te le disais hors antenne, c'est la troisième partie qui, fait un peu abstraction à tout ce montage, cette accélération autour du voyage spatio-temporel. Dans la troisième partie, quand le personnage de Tom Cruise commence vraiment à connaître un peu la source, hein, le but qu'il doit atteindre, on tombe vraiment dans le blockbuster américain typique, avec surtout une petite liaison, une petite relation amoureuse entre lui et le personnage d'Emily Blunt, qui pour moi n'a pas lieu d'être et qui gâche un petit peu toute la réussite scénaristique et cinématographique d'un point de vue du montage de la première partie. Après, ce qui est bien, la première partie, comme je l'ai dit, hein, l'action finale se passe à Paris, hein, donc en pleine ruine, engloutie sous les eaux, et dans le Louvre. Et là, pour une fois, les Américains ont l'idée de ne pas faire exploser New York, mais de faire exploser Paris, et en particulier le Louvre, hein, la forme avec la pyramide de verre. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc au final, on a un film, un bon blockbuster américain qui sort un peu avant le estival, à savoir l'été. Menée par un Tom Cruise qui, je trouve, mène, je pense que tu seras d'accord avec moi, qui plus les années avancent et plus il arrive à se dessiner une filmographie assez exemplaire avec des choix assez intelligents. Et c'est un comble pour un personnage qui, dans la vie, est scientologue.
Il sait s'entourer des meilleurs metteurs en scène.
Et quand même, contrairement à il y a 10 ans, et je pense notamment au Dernier Samouraï, où finalement. Le parcours du héros principal du Dernier Samouraï, c'était vraiment un copier-coller de sa propre vie quand il est rentré dans la scientologie. Je trouve qu'au fil des années, je ne sais pas si c'est une décision qu'il a prise lui-même ou si on lui a mis ses agents suite à sa rupture de contrat avec Paramount.
Il s'est vraiment repéré.
Mais il s'est peut-être remis en question en disant il faut peut-être que j'arrête de mettre au premier devant moi et la scientologie. Et là, depuis 10 ans, 5 ans, je trouve qu'il fait des choix artistiques plutôt ingénieux. Il s'entoure de metteurs en scène intelligents. Donc, je crois que tu as une théorie en plus là-dessus, sur le fait qu'il arrive à s'entourer.
Une théorie sur ce film que je n'ai pas vu, Edge of Tomorrow. Je pense vraiment que, comme il tourne avec les meilleurs metteurs en scène du moment, je pense vraiment que ces deux derniers films, c'est un appel du pied, je vais y arriver, ou une drague en fait, envers Duncan Jones, donc le fils de David Bowie, et qui est un bon metteur en scène qui fait actuellement Warcraft, qui a fait Moon. Oblivion, c'était Moon avec de la plus de thunes en fait, c'est quasiment la même histoire. Et Edge of Tomorrow fait vraiment point sur le papier à Source Code, le film avec Gyllenhaal, où c'est un soldat qui est quasiment en phase terminale et qui revient encore la même journée, encore. Et je pense que tout ça, c'est des appels du pied pour tourner avec Duncan Jones, qui est l'un des meilleurs metteurs en scène parmi les jeunes à l'heure actuelle à Hollywood.
D'accord.
Comme pareil, il veut tourner, on sait, avec Del Toro, avec Edgar Wright, il a déclaré plusieurs fois, donc il sait vraiment s'entourer. Et puis
je pense que là, il a mis un petit frein à ses ambitions de producteur qui au début de sa carrière de producteur prenait un peu le pas sur des metteurs en scène. On sait très bien que ça s'est très mal passé avec Brian De Palma sur le tournage de Mission Impossible, où Tom Cruise en tant que producteur a voulu avoir la mainmise sur le projet en imposant des choix artistiques.
Après avec Fincher sur Mission Impossible 3 par exemple.
Voilà. Et là je trouve qu'il a l'intelligence de se mettre un petit peu en retrait et de laisser le metteur en scène.
Il faut dire qu'il vieillit aussi, il peut pas faire les mêmes facultés aussi dans ses films. Je pense que c'est un acteur qui va se tourner de plus en plus vers la comédie ou vers le verbe, comme on l'a pu voir dans Tous les Tropiques, puisque peut pas faire les mêmes performances encore et encore.
Et puis c'est un acteur qui n'hésite pas à se ridiculiser. Tu parles de Tenir sur les Tropiques, là dans
excellent.
Les 15-20 premières minutes où il est dans son armure et où finalement il est complètement balancé sur le terrain, complètement vierge de formation et d'entraînement au niveau combat, il se ridiculise par moments. Il fait des choses que n'importe quel autre acteur grande star de film d'action n'oserait pas le faire. Et sur ce coup-là, je trouve que c'est assez prodigieux et courageux.
Et juste pour finir sur Tom Cruise, si vous vous intéressez un peu à Tom Cruise, il y a un livre des Cahiers du cinéma qui vient d'être sorti dans la collection Acteur. Le premier livre analytique sur Tom Cruise et sur sa carrière. Et je vous le conseille, enfin, je l'ai feuilleté, ça va être vraiment très très bien. Après De Niro, Nicholson, Meryl Streep, c'est Tom Cruise. Et on l'oublie un peu, c'est, je pense, le meilleur de sa génération. Moi.
Et alors justement, c'est la transition parfaite. On te passe la main pour un petit bouquin alors.
Oui, un petit livre. Vous savez, j'aime bien les petits livres de Capricci. Et...
Alors lui, c'est Capricci, moi, c'est Carlotta.
Oui, c'est aussi
on a nos petits chouchous.
Ça commence par C à chaque fois. Et Capricci, j'aime bien. C'est des livres qui se lisent rapidement, assez bien posés, assez bien faits. Et là, ils sortent un livre assez intéressant, je trouve. C'est l'une de mes autres passions. J'aime beaucoup les faits divers, etc. Les affaires macabres, comme toi d'ailleurs.
Oui, voilà, comme moi.
Et là, ils sortent un petit livre, une série de tueurs, donc les serial killers qui ont inspiré l'histoire du cinéma, par Axel Cadieux, qui prépare actuellement un livre d'ailleurs sur M. Night Shyamalan, qui travaille aussi à Sofilm. Et donc, il nous livre.
Il faut vouloir faire un livre sur M. Night Shyamalan.
Un livre collectif, sur Shyamalan. Pourquoi pas, après tout. Ça peut être intéressant. Et là, il nous livre un petit livre, il fait moins de 100 pages, il coûte 7,95€, donc vraiment accessible à toutes les bourses, et qui retrace les plus grands films comme ça, inspirés de faits divers et de tueurs en série. Alors, on parle de tueurs nés, bien évidemment, Massacre à la tronçonneuse qu'on a pu voir à Cannes, L'âne du chasseur, L'inspecteur Harry, la série Dexter, Scream aussi, enfin tous les plus grands films comme ça, un petit peu, M. le maudit de Fritz Lang. Et il va essayer de décortiquer un peu à travers chaque film qu'est-ce qui intéresse le metteur en scène dans le fait divers et de chroniquer les différents faits divers. Alors comme ça, on apprend que Massacre à la tronçonneuse s'inspire bien évidemment du tueur Ed Gein qui découpait ses victimes, qui portait leur peau
en guise de masque.
Qui a inspiré également en partie le Silence des agneaux, puisque le Silence des agneaux c'est en fait un puzzle de différents tueurs en série, comme Ed Kemper aussi qui était un cannibale, etc. Ou bien le vampire de Düsseldorf dans M. le maudit qui a traumatisé l'Allemagne. l'Allemagne
des années 30,
voilà, je vais y arriver.
Fin années 20, début 30.
Avec aussi plusieurs tueurs en série, dont un qui tuait plusieurs femmes, qui préparait la viande et qui les mettait dans ses hot dogs avant de les vendre. Donc plusieurs, plusieurs affaires, voilà. Et il essaye de comprendre un petit peu, selon les affaires, si c'est simplement un effet promotionnel, un peu comme dans Massacre à la tronçonneuse, qui sort vraiment sur le fait divers de Ed Gein, ou si c'est plus pour exorciser quelque part des traumas de l'artiste, par exemple, voilà. Quelque chose de vraiment personnel, ou plus comme, comme Fritz Lang, vraiment essayer de comprendre la société allemande, par exemple, de comprendre à travers un fait divers ce qui peut emmener une nation entière justement au meurtre ou à la folie. Et c'est très très intéressant, et justement, t'apprends plein de trucs, quoi, comme Scream, par exemple. Scream était inspiré d'une affaire réelle, apparemment, d'un tueur qui s'appelait... comment il s'appelait ? Voilà, Danny Rowling, je vais y arriver, un éventreur qui est là, qui a vraiment sévi sur les campus et qui en fait a vraiment inspiré le jeune metteur en scène, le jeune scénariste Williamson, qui s'est inspiré de ça, qui s'est nourri de ça et qui a vraiment transporté toute cette affaire dans la fiction et qui va littéralement changer à jamais le film du slasher, qui est pourtant en plus à la base inspiré de tout un tas de faits divers, comme Psychose, encore une fois avec Ed Gein, etc. quoi. Et c'est un petit livre, voilà, très, très rapide, il se lit en une heure, voilà, très sympathique.
Alors moi j'ai une question, parce que je ne l'ai pas acheté ce bouquin, j'étais un peu réticent, parce que on connaît le Stéphane Bourgoin, on sait qu'il a écrit beaucoup de livres sur le sujet, qu'il a rencontré des vrais serial killers, que c'est personne qui connaît le mieux ce phénomène. Alors est-ce qu'il y a une différence, est-ce que finalement ce petit bouquin n'est pas un sous, écrit par un sous Stéphane, Stéphane Guillon.
Stéphane Bourgoin.
Et deuxième chose, est-ce que là tu en parles très bien, Massacre à la tronçonneuse est inspiré par Ed Gein, que le personnage de Buffalo Bill dans Le Seigneur des Anneaux a également été inspiré par Ed Gein, ça on le sait très bien. Est-ce que finalement ce livre ne souffre pas du même problème que l'ouvrage d'Arnaud Bordas qu'on a chroniqué à la rentrée, savoir que ça parle de choses que l'on sait déjà et que finalement c'est pas un livre destiné uniquement aux débutants, aux novices du genre?
Non, franchement, on apprend
des choses à nouvelles.
Certes, voilà, Massacre à la tronçonneuse, on le sait, comme Psychose, tout ça. Mais voilà, par exemple, Arsenic et Vieille Dentelle, je ne savais pas, par exemple, que c'est un fait divers qui a vraiment existé, une empoisonneuse, une veuve noire qui a tué 33 personnes, ils disent dans le bouquin. Voilà, le Zodiac, on le connaît un peu dans l'inspecteur Harry. Mais par exemple, le Crocodile de la Mort, j'ai encore appris des trucs, quoi, que Tarantino a pompé dans le Crocodile de la Mort.
Ah non, ça, tu savais, le premier plan.
Je savais pas, moi.
Le premier plan.
J'ai jamais vu le
My
film.
My name is Buck.
Voilà, Buck. Et j'apprends plein de trucs, comme quoi c'est une histoire des années 50, comme quoi un homme donnait à manger aux crocodiles et des crocodiles, ses victimes, etc. Donc, non, ça dépend, ou Dexter, que c'est une vraie affaire, Manuel Pardo, le tueur en série, qui était un flic. Non, et puis, c'est un truc sans prétention, quoi. C'est simplement une idée d'analyser le cinéma plus que les tueurs en série. Et le seul reproche que je lui ferais, c'est peut-être son côté très court, quoi. Ça se lit très, très vite. J'aurais bien aimé peut-être rentrer plus en profondeur dans les différentes affaires, mais ça reste passionnant, quoi. Si on aime ce genre d'affaires, c'est un petit livre sympa, ludique, on passe un bon moment, quoi.
D'accord.
Mais ça n'a pas de prétention particulière.
Eh ben, on écoute un second morceau de musique et on se retrouve ensuite en troisième partie un petit peu pour parler de Bertha Boxcar, le deuxième film de Scorsese et qui va ressortir bientôt, c'est ça ?
Qui sort cette semaine.
Mean Street la semaine prochaine.
UGC Confluence.
Resentment takes a second face and futures feeling late for the present instead of living bitter. Better yet, give thanks for the lesson. Grace for the chicken said I'm straight off the dressing. With a hate for the heaven. Time for every walk I borrow. To be enough to do the climb. Thinking on tomorrow. The sun is shining even though it's coming down heavy. Hold your head and on the line while we steady pitch pennies. And if I had a dime for every walk I borrow. To be enough to do the climb. I'm thinking on tomorrow. The sun is shining even though it's coming down heavy. Hold your head and on the line while we steady pitch pennies. Daily bread, daily, you made me your brethren. Save me your place at the table, late as alpha. Maybe I get it, bet it made me who I am. Rep the Senate and letter, the representative. Never forget it ever. And yep, it gets better. We seen it like the coming dawn. A young and don't get stuck. Just one of the longer trudges. Sleep just keeps the summer coming on. A homeless on when bumming. Don't see sympathy as understanding. Call us disadvantage, yet we managed to manage. If I had control, I'd do it all over with hand-me-down buddies. With double judges clowning louder now to scam me down funny. In the plan for man, the camera pants ugly, full circle on a world full of dummies standing to judge me. You trust me, we ain't trucked so long for nothing. There's something in saying we made it with shady deal and poker faces and gracefully played it from week to where we stand. My fam just day to day and still uphill then building strong. Your song, homie, play it.
If I had a dime for every walk I borrow, to be enough to hill to climb, thinking on tomorrow. The sun is shining even though it's coming down heavy. Hold your head and on the line while we steady pitch pennies. And if I had a shining, even though it's coming down heavy. Hold your head and on the line while we steady pitch pennies. Playing pennies under thunder, coming down bitter. But never heat this one without splinters. To see the sun without winter. Playing pennies under thunder, coming down bitter. But never heat this one without splinters. See the sun without winter. Playing pennies when it's coming down bitter. But never heat this one without splinters. To see the sun without winter. But playing pennies under thunder, coming down bitter. But never heat this one without splinters.
If I had a dime, if I had a dime, if I had a dime, dime, if I had a dime, if I had a dime, dime, if I had a dime, if I had a dime, if I had a dime, 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 dime,
dernière partie de ce Confluence Cinéma, et on va donc parler du second film chronologiquement de l'histoire de Scorsese, qui est donc Bertha Boxcar, c'est ça?
C'est ça, oui.
Son deuxième long métrage qu'il a fait sous l'écurie Roger Corman.
Qui est plus ou moins la suite de Bloody Mama.
Oui.
Qui était aussi réalisé par Corman, si je ne m'abuse. Avec De Niro qui était dedans, d'ailleurs, un petit rôle.
Ah bon?
Enfin, je crois qu'il a un petit rôle, ouais.
Alors, Raphaël, comme tu es un peu notre spécialiste maison de Scorsese, tu peux nous faire peut-être un petit peu nous rappeler l'époque pour Scorsese, et ses débuts, c'est le nouvel Hollywood, tout ça.
Bah là, il sort d'un film très personnel qui était Who's That Knocking at My Door, un film avec Harvey Keitel.
Est-ce que tu arriveras à le dire aussi rapidement que Martin Scorsese? Mais moi, je n'arrive même pas à te dire. Who's
Knocking at My Door. C'est pas facile. Hein. Et Harvey Keitel, un film voilà, sur un homme et une femme, un film qui se passait à l'Italie, on retrouve le poids de la culpabilité, la rédemption, le poids du catholicisme, la famille, la mafia.
L'amour du cinéma, parce qu'il y a toute une discussion sur le bateau qui mène, le ferry qui mène jusqu'à la Statue de Liberté.
Sur Truffaut, si je ne m'abuse.
Oui, surtout de la prison du désert.
Oui, c'est vrai, exactement. Et donc un film très personnel. Et là, Scorsese, finalement, va se tourner vers un film de studio. C'est quand même ça, Roger Corman, même si c'est plus de la série B. Et il va nous livrer voilà, ce film sur la dépression, le parcours d'une jeune femme, un peu Bonnie and Clyde. Voilà, c'est un peu le Bonnie and Clyde du pauvre, on pourrait dire, après le film de Arthur Payne.
Non, on est en pleine période, quand même, où c'est la vague Bonnie and Clyde, un petit peu. Bah, c'est vraiment à la mode, quoi.
Puis le film de gangster revient aussi grâce à ça, quoi. C'est un nouveau un genre qui revient de nouveau à la mode après des années de désertion. Et le film va suivre le parcours criminel voilà, d'une femme qui tombe amoureuse de plusieurs hommes, si je ne m'abuse. Je l'ai vu il y a quelques mois, le film.
Alors, il y a un côté très nouvelle vague. Moi, c'est vrai que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors, je suis un bien moins grand spécialiste que vous de Scorsese, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment un des films de Scorsese que j'aime bien. Et moi, qui suis un passionné de nouvelle vague et tout ça, on parlait la semaine dernière d'À bout de souffle. Enfin, c'est clair et net que moi, dans les films de Scorsese, c'est celui qui me fait le plus penser à ça. Il y a un esprit comme ça. Il y a aussi ce personnage féminin qui est beaucoup moins écrasé que les autres personnages féminins des films de Scorsese. Il y a un petit peu tout ça.
Après,
quoi.
Il avait fait. C'est vrai que c'est étonnant de sa part de voir un personnage féminin aussi fort. C'est un film presque féministe, tout comme l'était aussi Alice n'est plus ici, qu'il avait fait après Mean Street, qui est un film aussi très très beau avec Ellen Burstyn, qui montrait la force de conviction des femmes. Et c'est vrai que Scorsese, on l'associe souvent au grand destin des hommes, et pourtant il a commencé avec les femmes. Hein. Même vous avez Knocking at My Door, retrace quand même le parcours d'une femme qui était violée, qui est assez meurtrie, même si c'est qu'est-elle le héros. Mais le personnage féminin était assez bien croqué aussi, avec une grande finesse, et c'est encore le cas ici. Et on retrouve quand même par-ci par-là, à travers le montage, c'est un film un peu différent, mais à travers le montage, à travers aussi. Comme tu le disais dernièrement, tu me le disais, la crucifixion.
Oui, j'allais justement en venir. Qui intervient à la fin. On le dit, on va pas dévoiler. Enfin, on dévoile la fin. Oui et non, la fin du film. Mais d'ailleurs, la fin est spoliée sur l'affiche. Que l'affiche, l'image retient quand on voit l'affiche de Bertha Boxart, c'est cette image du personnage de David Carradine crucifié sur un wagon. Et alors moi j'ai un ami qui aime bien l'histoire et qui connaît un petit peu cette période de l'histoire américaine. Et moi je lui disais, je trouve ça un petit peu gros de montrer une crucifixion qui a lieu en pleine dépression. Alors qu'en général, enfin les images que j'ai de cette période-là, c'est surtout les lynchages ou les pendaisons qui avaient souvent lieu. Là, une crucifixion. Je trouvais que ça, la crucifixion dans le film, à la fin, c'est tout à fait logique quand on tenait les thèmes de prédilection et la relation qu'il a avec la religion, les thèmes de prédilection de Scorsese et la relation qu'il a avec la religion, pardon. Mais je trouvais que ça arrivait un petit peu comme un cheveu sous la soupe. Et lui me disait que c'était pas si ça arrivait qu'on crucifie, de crucifier des gens pour des lynchages ou pour des exécutions sommaires et exemplaires. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est un truc qui arrive comme un cheveu sous la soupe à la fin. Tout le long du film, on a un film de gangster classique avec un esprit très Corman. Tu dis que ça reprend, ça c'était un peu la suite de
Bloody Mama. Ouais.
Bloody Mama, effectivement, et dans cette mouvance là.
Puis il y a quelque chose de très rock quand même. On sent qu'on est dans une période où il y a eu un petit peu toute la vague rock, hippie, etc. On est dans un changement de société. Enfin, moi je trouve qu'il y a, on perçoit ça dans aussi la tension sexuelle qui règne. Enfin, c'est un film d'époque quand même.
Et d'ailleurs, le film, Martin Scorsese joue un petit rôle. Il joue le rôle d'un client qui va voir l'actrice principale qui, à un moment dans le film, des activités, on va dire.
Un petit peu illégales, voilà.
Voilà, exactement, pour vivre. Et ce film passe la Ciné Confluence et je crois aussi la Cité Internationale.
Oui.
En tout cas, il fait partie d'une petite programmation spéciale Scorsese qui a lieu durant tout le mois de juin. Alors, il y a deux semaines, c'était Casino que tu as vu, Raphaël.
J'ai eu la chance, je me suis vite dépêché pour le voir. Je suis monté à l'Orient pour ça et quelle claque.
Ouais. Et la semaine dernière, c'était Raging Bull.
Ouais.
Et cette semaine, c'est
Bertha Boxcar. Et la semaine prochaine, après, il y a encore Mean Street. Par contre, c'est en sortie nationale, Mean Street. Donc, on pourra le voir un peu de partout. Ouais.
D'accord.
Restaurer, etc. Et je pense qu'on devrait aussi aller le voir parce que, quand même, Mean Street, c'est quand même pas mal non plus. Hein.
Ouais. Bah, moi, je l'ai revu il y a pas longtemps, vu qu'on a fait l'émission spéciale Scorsese en début d'année.
Toute la première période, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, moi. Mais, j'avais vu quand Bertha Boxcar, il était repassé à l'Institut Lumière il n'y a pas si longtemps aussi. Et c'est là où je l'avais revu. Il passe aussi New York ces temps-ci. Je sais plus si c'est fini ou pas l'Institut Lumière, mais je sais pas, il y a beaucoup de Scorsese qui tournent actuellement. Et puis La Valse des Pandas qui était ressorti aussi.
Et pour finir, voilà, c'est pas un film à proprement très personnel. C'est pas Mean
Street. Il est atypique.
Cette scène de crucifixion, il y a quand même quelques petits éléments qui annoncent vraiment les éléments majeurs de la
de la raison, le montage, le rock, etc. On retrouve un peu. Mais moi, pour l'époque, je préfère un autre film un peu dans le même genre, toujours sous la bannière Corman, c'est Dillinger de John Milius. Je trouve qu'il est 100 fois plus maîtrisé que le Scorsese, hein, personnellement, sur le grand gangster Dillinger, avec un casting hallucinant, Warren Oates et tout. Je trouve qu'il est
beaucoup plus fort sur la période, qui dit beaucoup plus de choses.
Bah, on sent que c'est un film d'école un peu pour Scorsese. Ouais, ouais. Je trouve qu'il y a ça. On sent qu'il charge des choses et qu'il y a toute cette influence. Moi je persiste là-dessus. Nouvelle Vague, quand même. Qui est
ah oui, mais totalement.
Bah, il est grand fan de Nouvelle Vague. Hein, c'est une encyclopédie. Mais
moins
seul,
que
donc
dans d'autres films. Enfin, plus que dans d'autres films, je veux dire.
Dans son premier, c'était bien probant, celui-là aussi. Mais après, ouais, c'est.
Ok, messieurs, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine alors pour de nouvelles actualités cinéma. Et d'ici là, bah, très bonne semaine à vous.
Au revoir.
Au revoir.